Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Aurélien Berland autour de son livre Terre et Liberté, la quête d'autonomie contre le fantasme de délivrance, paru aux éditions de La Lenteur, à la librairie Terra Nova, à Toulouse.
Bonsoir, merci d'être venu m'écouter donc en avant-première à Terra Nova, et merci à Terra Nova d'avoir accepté d'avoir accepté que je présente ce livre-là sans qu'ils aient pu vérifier son contenu avant. C'est un bel acte de confiance. Et je vais commencer tout de suite à présenter ce livre. Et pour ça, le mieux, je crois, que c'est que je parle un petit peu de mon parcours de vie, à la fois parce que je pense que les idées sont situées, qu'elles ont besoin d'être incarnées, et parce que ce livre, il est en partie le fruit de mon parcours. Moi, je suis né à Paris, j'ai fait des études de philosophie et sociologie assez poussées, normal sup, thèse de doctorat, habilitation à diriger les recherches et compagnie. Et pourtant, j'ai pas cherché, après ma thèse, à avoir un poste ni un post-doc, d'ailleurs. Je me suis installé à la campagne. J'ai fait un pas de côté, en fait, par rapport à ma carrière universitaire, et je me suis installé dans le Tarn, pas loin d'ici. Et voilà, pourquoi ? Parce que j'avais été assez impliqué dans le mouvement altermondialiste quand j'étais jeune, au tournant des années 2000. Et par le biais de cette implication, j'avais compris qu'il y avait quelque chose de pourri, littéralement, dans le mode de vie que je menais en ville, comme tout le monde. Et que ce truc-là, il n'avait pas à voir par rapport à des intentions, par rapport à moi, par rapport aux personnes qui vivent ce mode de vie. C'était un effet structurel qui était complètement indépendant de nos intentions. Ce mode de vie, je dirais que c'est celui qu'on pourrait définir de salarié, consommateur, électeur. Un petit peu en parallèle, en général, les modes de vie, on dit qu'il y a eu les chasseurs-cueilleurs. Ensuite, il y a eu les paysans-artisans, puisque les paysans, ils faisaient toujours aussi de l'artisanat en plus. Et puis, donc, avec la société industrielle, le monde industriel né à partir du 19e siècle, il y a eu cette figure, ce mode de vie de salarié, consommateur, électeur. Or, ce mode de vie, il pose plein de problèmes. Dans la mouvance altermondialiste, j'avais compris peu à peu que à peu près tout ce que je consommais, toutes les fringues que je portais, tout ce que j'achetais, était produit dans des conditions plus ou moins dégueulasses, très souvent à l'autre bout du monde, avec des implications sociales et écologiques qui convenaient pas, en fait, qu'on n'est pas à mes valeurs, en fait, qui allaient contre ce que je défendais en termes d'égalité, de respect d'autrui et de respect de la nature. Et ça, c'était même... Moi, je participais pas directement à cette exploitation, mais en fait, c'était un effet structurel d'une division du travail qui faisait que, d'ailleurs, c'était plus ou moins invisibilisé. Je l'avais appris à 20-25 ans, tous ces effets-là, et c'était complètement indépendant de ma volonté. Et même pour ceux qui bénéficient en quelque sorte de ce mode de vie dans les pays riches et dans les grandes métropoles, ce mode de vie, en fait, il était basé sur une bonne dose de domination en tant que salarié. salarié, c'est quand même un contrat de subordination, donc on obéit à un patron. Une bonne dose d'aliénation par la consommation et une bonne dose de manipulation aussi en tant qu'électeur, en tant que figure politique qui est dirigée vers des choix dans les partis politiques, dans l'offre électorale entre laquelle on est censé avoir le choix et choisir. Voilà, c'était ni satisfaisant ni pour les uns et encore moins pour les autres. Et donc voilà, je voulais en sortir. Et dans les groupes autonomes auxquels je participais à cette époque-là, c'était aussi une aspiration partagée à avoir plus d'autonomie, à vivre de manière plus autonome. Et par là, on entendait autonomie politique, mais aussi autonomie matérielle. Et c'est ce sens-là qui a pris aujourd'hui, qui est très fort. Quand on parle d'autonomie aujourd'hui, notamment d'autonomie énergétique, alimentaire, etc., ce qu'on veut dire, ce n'est pas seulement se donner ses propres lois, mais c'est subvenir à ses propres besoins, au moins en partie. Prendre en charge une part de sa subsistance. Et donc, en m'installant dans le Tarn, je me suis mis à faire des cultures vivrières, à pratiquer le petit élevage, le glanage, les chantiers collectifs, réparer mon propre habitat, le bricoler, etc. Toutes ces activités où on fait les choses par soi-même. Alors, ce livre, je l'ai mûri pendant 10 ans parce que c'est un petit peu la réflexion sur cette idée d'autonomie qui nous habitait et qui est devenue assez en vogue aujourd'hui. Or, cette idée, elle va pas de soi en fait, parce que qui dit autonomie dit liberté. Or, la liberté, c'est aussi une valeur fondamentale de notre monde capitaliste, libéral. Et donc, il y a besoin quand même de clarifier un petit peu, est-ce qu'on défend la même chose que les partisans du libéralisme et du capitalisme, ou est-ce qu'on défend autre chose? Et là, aujourd'hui, la situation elle est encore pire en fait qu'il y a 10 ans, parce que la liberté, ça a été longtemps l'étendard, en fait, un des devises des mouvements révolutionnaires contre les formes de pouvoir oligarchique et autocratique dans le monde. Mais aujourd'hui, la confusion est totale, puisque les partis qui se revendiquent de la défense des libertés, c'est même pas juste les suppôts du capitalisme industriel comme autrefois. Maintenant, carrément, c'est les forces d'extrême droite, les forces autoritaires. Marine Le Pen, je ne sais pas si vous avez vu son affiche pour la campagne électorale, on voit sa tronche avec marqué Liberté en gros. Le parti d'extrême droite allemand qui s'appelle Alternative für Deutschland, il fait campagne aussi sur les libertés. Donc, cette idée, elle a été accaparée d'abord par les libéraux, donc les défenseurs du capitalisme industriel, et puis maintenant carrément par les forces d'extrême droite. Donc, en quoi ce mot-là, on peut s'en revendiquer encore? Et il ne suffit pas juste de dire l'autonomie, ça n'a rien à voir avec la liberté. Il faut encore dire en quoi notre conception de l'autonomie, elle se distingue de leur conception de la liberté. Et dans cette situation, il y a plein de gens à gauche, notamment en fait, ça s'est accéléré avec le mouvement contre le pass sanitaire cet été, plein de gens qui disent non mais la liberté c'est une valeur de droite, c'est pas notre discours. Et moi ça je trouve ça très insatisfaisant, parce que ça veut dire qu'il y a eu un vol, un rapt sémantique, on s'est fait voler un mot et on accepte en fait ce kidnapping. Et en fait, il y a un problème, parce que en contrôlant les mots, on contrôle les pensées. Et dominer les pensées, les esprits des gens, c'est quand même un des moyens de base pour assujettir les populations. C'est une idée de base d'Orwell dans son roman 1984, tout le monde dit qu'il était assez visionnaire. Et dans ce roman, notamment, le régime totalitaire de Big Brother ne cesse de dire « la liberté, c'est l'esclavage ». Et en fait, je pense qu'on en est là aujourd'hui. Quand « liberté », ça devient un slogan d'extrême droite, je pense qu'on n'est pas loin de cette situation orwellienne où les mots disent le contraire de ce qu'ils signifient. Et ça ne nous aide pas, en fait. Ça ne nous aide pas. Donc, du coup, je me suis dit c'était important de repenser la liberté, de renouer aussi avec d'autres conceptions de la liberté que celles qui dominent aujourd'hui. Mais dans mon enquête, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi la repenser, la liberté, parce qu'en fait, une partie des conceptions dont on a hérité, même les conceptions de gauche, Enfin, voilà, il y avait quelque chose de problématique qui permet de comprendre la confusion actuelle et d'autres, d'autres développements, d'autres évolutions assez négatives de notre société. Je pense notamment à la situation, à l'impasse sociale et écologique dans laquelle on est en train de s'enfoncer. Parce que plein d'auteurs ont montré que l'idée moderne de liberté comme arrachement à la nature, qui a été partagée en fait par plein de gens, les libéraux comme une partie des marxistes, elle a contribué en effet à nous mener dans cette impasse. Et donc on ne peut pas juste se contenter de défendre cette conception, il faut aussi la discuter. Et par contre, on ne peut pas non plus penser que pour freiner le désastre en cours, il suffirait de suspendre les libertés, de décréter l'état d'urgence écologique, c'est-à-dire de donner les pleins pouvoirs à l'État. Moi, ça, je pense que c'est complètement absurde. Ça revient à se dire qu'en donnant les pleins pouvoirs à des pyromanes, on va les transformer en pompiers. Donc, faut vraiment avoir une vision complètement imbécile, en fait, des causes du désastre écologique. Et voilà, en fait, tous les États, autoritaires ou pas autoritaires, ils ont toujours alimenté le développement économique qui est la cause structurelle de l'impasse écologique actuelle. Et donc, moi, j'ai essayé d'essayer de repenser la liberté en partie. Je me suis inspiré de plein de mouvements, de courants anarchistes, courants écoféministes, et aussi de l'écologie politique. Parce que l'écologie politique, elle s'est toujours définie contre l'environnementalisme qui était focalisé sur la défense de la nature, la protection de l'environnement. L'écologie politique, ça a toujours été l'idée que pour défendre, si on veut vraiment défendre la nature, il faut défendre aussi la liberté. Les deux choses vont ensemble, c'est une défense conjointe de la nature et de la liberté. Et que si on perdait l'une, on perdrait l'autre. Si on perdait la nature, on serait forcément dans des formes de vie totalitaire. Et vice-versa, les deux sont intrinsèquement liés. Et c'est cette idée qui est au fondement du livre. Alors, cette idée de liberté qui est au cœur de l'écologie politique, notamment, mais en fait dont on va voir qu'elle traverse d'autres mouvements, notamment les mouvements anarchistes, on dit souvent que c'est la liberté comme autonomie. Et donc, il s'agit en fait de se demander en quoi cette conception de l'autonomie, elle se distingue de la conception dominante à l'époque moderne de la liberté. Conception dominante qui a été aussi la conception des classes dominantes. Alors, dans Terre et Liberté, j'ai essayé de répondre à ces questions de manière à la fois très approfondie et le plus accessible possible. Très approfondi, comme j'étais un bon élève du système universitaire, au moins jusqu'au pas de côté que j'ai fait, j'ai vraiment cherché à creuser, j'ai lu vraiment à tout va pendant 10 ans toutes les théories de la liberté, libérale, marxiste, anarchiste, j'ai lu les historiens, j'ai lu des anthropologues, etc., les conceptions anciennes, les conceptions modernes, les philosophies européennes ou occidentales, et puis d'autres éléments du monde entier. Mais je vous rassure tout de suite, je n'ai pas essayé d'étaler ma confiture sur 500 pages. J'aurais bien aimé le faire, mais il y a un certain nombre de copains et de copines qui m'ont dit que c'était suffisamment intéressant ce que j'avais à dire pour épargner, essayer de faire un livre accessible. Et en effet, j'ai horreur en fait, du jargon universitaire, ça m'a toujours saoulé. Et donc, j'ai essayé de faire un livre pas trop long. Et le plus accessible possible, parce que ce qui concerne tout le monde doit être accessible à tout le monde. Et donc, je remercie au passage tous les copains et les copines qui se sont fadés les versions précédentes, parfois un petit peu dures à comprendre, de ce livre, pour en faire quelque chose, un objet qui aide à tout le monde à réfléchir. Alors, pour résumer pour condenser le livre dans en un quart d'heure, 20 minutes, un petit peu plus de présentation. Je dirais que, en fait, depuis la révolution industrielle, on a complètement, en fait, quand on pense à la liberté à l'âge moderne, on pense surtout au versant institutionnel, la démocratie, les droits, les droits de l'homme, la liberté de mouvement, liberté de réunion, liberté d'expression, etc. Les droits qui sont censés être garantis par les États. Donc ça, c'est le versant institutionnel de la liberté. Mais depuis la révolution industrielle, on a complètement négligé le fait que la liberté se joue sur un plan aussi très matériel, le plan de la vie quotidienne, et que sur ce plan, on peut distinguer deux conceptions antagoniques. La liberté comme délivrance, qui a fini par dominer la modernité occidentale et bourgeoise, et la liberté comme autonomie, qui constitue en quelque sorte une conception souterraine de la liberté, qui a été portée autrefois par les classes populaires, notamment par les paysans, et qui l'est désormais par l'écologie politique et notamment par l'écoféminisme. Et donc le livre est structuré autour de cette opposition entre la liberté comme délivrance et la liberté comme autonomie. Alors je vais commencer par la liberté comme délivrance. Donc, comme je l'ai dit, les théories modernes de la liberté, c'est toujours les conditions institutionnelles de la liberté. Mais quand on les lit de près, ces théories, on voit que y a toujours, en fait, tous ces auteurs présupposent une conception matérielle de la liberté. Enfin, derrière toutes leurs réflexions sur la liberté institutionnelle, il y a toujours un versant matériel de la liberté qui est rarement thématisé comme tel, mais qui est sous-jacent, qui est présupposé. Et sur ce plan, la liberté, c'est quoi? C'est le fait d'être délivré d'un certain nombre de nécessités liées à la vie quotidienne. Et ces nécessités, c'est ce qu'on appelle en général les activités de subsistance, les activités liées à la subsistance, qu'on juge en général pénibles, routinières, ennuyantes, oppressives, pesantes, etc., et dont il voudrait être débarrassé. Ces activités, c'est produire sa nourriture, se procurer de quoi se chauffer, toutes les activités domestiques, le ménage, la vaisselle, etc., la lessive, s'occuper des personnes dépendantes qui nous entourent, construire et entretenir son habitat, etc. Tout ce qui est lié vraiment à la subsistance, à la vie matérielle, concrète, quotidienne. On est vraiment libre que quand on est libéré de ses nécessités, quand on peut faire autre chose que s'occuper de tout ça. Et je prends nécessité dans un sens très relatif, c'est-à-dire dans le sens de choses à faire qui sont tellement constitutives de notre mode de vie qu'on ne voit pas comment s'en passer. Alors, en fait, cette conception, quand on regarde les textes, elle est sous-jacente à la quasi-totalité des conceptions modernes de la liberté, en tous les cas chez les grands auteurs ou réputés grands, que ce soit des libéraux, des socialistes ou autres. Et je pense qu'en fait, elle nous traverse toutes et tous à différents degrés. Et pourtant, cette aspiration commune, elle pose en réalité plein de problèmes, car pour être exonéré des exigences du quotidien, et ben en fait, il faut s'en décharger sur d'autres personnes. On n'a pas envie de s'en passer, il faut bien que ces nécessités, il faut bien que quelqu'un s'en charge, mais on ne veut pas s'en charger nous-mêmes. Donc, en général, c'est d'autres gens qui s'en chargent pour nous. Or, ce geste de se délivrer de ces nécessités-là, eh ben, il a de très lourdes implications sociales, politiques et écologiques. Alors, les implications sur le plan sociopolitique, si la liberté, elle suppose de se délester des nécessités de la vie quotidienne, pour se consacrer à des activités jugées plus hautes ou plus réjouissantes, alors en fait elle repose sur la domination sociale. Car se délester de ses nécessités, ça implique de les faire faire à quelqu'un d'autre, faire faire les tâches qu'on n'a pas envie, dont on ne peut pas se passer, mais qu'on n'a pas envie d'endosser soi-même, il faut les faire faire. Or, faire faire, c'est bien la formule clé de la domination sociale, qui repose toujours en fait sur la distinction entre les dirigeants et les exécutants, les exécutants qui font et les dirigeants, les dominants, qui font faire aux exécutants ce qu'ils estiment nécessaire de faire mais qu'ils n'ont pas envie de faire eux-mêmes. C'est ça la domination, les rapports de commandement, c'est quand même toujours ça la domination sociale. Et en effet, l'histoire elle montre que tous les groupes en situation de domination sociale dans l'histoire se sont toujours délestés d'une partie des nécessités matérielles de la vie sur les groupes qu'ils dominaient, qu'il s'agisse des femmes à qui on fait faire les tâches domestiques, qu'il s'agisse des serfs ou des esclaves dans le monde antique, ou qu'il s'agisse des domestiques et des ouvriers salariés dans le monde bourgeois moderne. Alors l'histoire, elle montre aussi qu'il y a plein de manières en fait de s'y prendre, plus ou moins violentes et directives, En fait, la domination sociale de la bourgeoisie sur le prolétariat ou sur les ouvriers et les gens qui étaient salariés, elle ne repose pas sur le même degré de violence ou les mêmes types de violence que l'esclavage antique, bien sûr. Et donc, bah, tout le livre, enfin le cœur du livre, c'est une analyse de ces voies de la délivrance matérielle, c'est-à-dire des dispositifs qui ont été inventés par les dominants au cours de l'histoire pour se délester sur des populations dominées de ces nécessités de la vie quotidienne. Alors, je ne vais pas pouvoir développer tout ça ce soir, parce que sinon ce serait un peu long. Et je vais aller donc directement au terme de cette histoire. La société de consommation, la société industrielle basée sur la consommation de masse dans laquelle on vit aujourd'hui, pour en dégager les implications, pour dégager les implications, cette fois écologiques, de ce geste de la liberté comme délivrance. On a vu l'implication sociale et politique, c'est la domination sociale, et l'implication écologique, c'est le saccage de la planète, en fait. Alors pourquoi ? Comme plein d'auteurs dans la mouvance de l'écologie politique l'ont montré, en fait, le désastre écologique dans lequel on s'enfonce, il est étroitement lié au gouffre qui s'est creusé entre la production et la consommation. Gouffre qui prend carrément maintenant une dimension géopolitique mondiale entre les centres consommateurs dans lesquels on vit, ici, et puis les périphéries productrices qui nous abreuvent dans tout ce qui nous permet de satisfaire nos besoins. La Chine, les pays du tiers-monde, comme on disait autrefois, le sud global, etc. Alors pourquoi ? En fait, on peut dire trois raisons vite fait. D'abord, cette séparation entre consommateurs et producteurs, elle suppose du coup un allongement à l'infini des chaînes de transport et de production, etc., ce qui provoque en fait une boulimie énergétique, la mondialisation économique, etc. Et tout ça, ça a un impact écologique. Pour ça, les écolos, ils valorisent les circuits courts. Bien sûr, c'est incompatible avec la mondialisation. L'autre élément, c'est que dans ce gouffre entre la séparation et la production, il y a une invisibilisation des implications réelles de ce qu'on consomme. C'est-à-dire on ne le voit pas parce que c'est loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur. C'est aussi vrai pour les implications sociales, en fait. Et voilà, c'est un petit peu l'histoire que je racontais au début, là, que moi, à 25 ans, j'apprenais un petit peu avec stupéfaction que tout ce que j'avais sur moi, tout ce que je portais sur moi, c'était produit par des enfants et avec des conséquences écologiques dramatiques. Et enfin, parce que seule cette séparation permet de comprendre la fuite en avant des besoins qui caractérisent notre forme de vie de consommateur salarié, qui, pour reprendre une belle formule de André Gortz, ne produisent rien de ce qu'ils consomment et ne consomment rien de ce qu'ils produisent. Quand on fait les choses soi-même, il en résulte en fait une auto-limitation des besoins, tout simplement parce qu'on n'a pas le premier besoin. Ça va être de ne pas passer sa vie à travailler pour satisfaire des besoins illimités. En revanche, rien ne vient borner les désirs et les besoins de celles et ceux qui font tout faire aux autres. Et ça, je pense que c'est un point essentiel. Alors, ce qu'on voit, maintenant, je voudrais faire un lien, une troisième idée, c'est le lien entre question sociale, on a vu, la domination sociale, et question écologique. Parce que, c'est au cœur de mes préoccupations. Cette séparation entre consommation et production, elle reconduit, on le voit, en partie, celle entre direction et exécution, mais en partie seulement. C'est clair que dans l'histoire, les dominants, ils ont toujours été du côté des consommateurs par rapport aux classes laborieuses qui faisaient les choses pour les riches, pour les classes dominantes. Mais aujourd'hui, bien sûr, tous les consommateurs que nous sommes ne font pas partie des classes dominantes et encore moins des classes dirigeantes. En fait, avec la société de consommation qui est l'aboutissement du capitalisme industriel, la délivrance matérielle, qui était le privilège des classes dominantes jusqu'à présent, elle a été en partie démocratisée, ou plutôt, je dirais, massifiée. Mais ce faisant, en fait, elle a changé de sens politique. Si elle était autrefois la marque de la domination sociale, la délivrance, elle est devenue, en fait, le verrou de notre impuissance politique en tant que masse de consommateurs, tout simplement parce qu'on est devenu vitalement dépendant du système qui nous exploite et qui bousille la planète. Et je pense que c'est pour ça en fait, qu'on se sent tellement impuissant socialement et écologiquement par rapport à le cours désastreux de la société actuellement. En fait, la dépendance est telle que c'est devenu un verrou de la domination sociale pour une raison toute simple, en fait, c'est que la domination sociale, elle a toujours reposé sur deux piliers. Il y a toujours eu les armes, bien sûr, la domination sociale repose sur le pouvoir policier, on va dire. Mais en fait, depuis très longtemps, et ça c'est quelque chose qui a été complètement oublié par la théorie politique depuis au moins 200 ans, c'est que la domination sociale, elle passe aussi par la dépendance matérielle. On ne mord pas la main de celui qui vous nourrit. Dès qu'on réussit à mettre les dominés sous dépendance matérielle, eh ben, en fait, on les enferme. On les tient captifs parce que parce qu'on est prisonnier en fait de ceux qui nous permettent, nous donnent nos moyens de vivre. Et donc en fait, tout ça, ça nous permet de comprendre deux choses importantes. Bon, d'abord, les raisons de notre impuissance, je l'ai dit. Et l'autre chose, c'est pourquoi la question sociale et la question écologique, elles sont aussi étroitement imbriquées. En fait, ce sont les deux expressions d'un même problème fondamental qui est une conception de la liberté qui repose au fond sur l'exploitation des hommes et de la nature. Les deux choses vont ensemble. Et de ce point de vue-là, toutes celles et ceux qui se sont retrouvés dans le slogan « fin du monde, fin du mois, même combat », eh ben, ils avaient perçu quelque chose de très pertinent. Alors, voilà, ça s'était vite fait sur la délivrance. Et maintenant, je vais développer le contrepoint, la liberté comme autonomie. Alors, j'ai dit que cette conception-là, la liberté comme délivrance, elle était dominante à l'époque moderne. Elle est même assez hégémonique puisqu'elle traverse les libéraux, les marxistes, etc. Mais en fait, c'est pas la seule conception de la liberté et même dans l'Occident moderne. En fait, cette conception de privilégié, elle s'est imposée contre les aspirations des classes populaires qui, en général, ne se battaient pas pour être déchargées des nécessités de la vie, mais pour accéder aux ressources permettant de prendre en charge elles-mêmes ses nécessités. Pour accéder aux ressources, c'est-à-dire pour se défendre des ressources communes contre leur accaparement par les puissances dominantes. En fait, parmi les luttes populaires, il y a eu plein de luttes populaires contre la domination, elles ont pris plein de formes. Mais partout dans le monde, on voit des luttes qui sont centrées sur la défense de l'accès à un certain nombre de ressources fondamentales permettant d'assurer la subsistance, l'accès à la terre, bien sûr, mais aussi la lutte contre la privatisation des forêts. C'est de ça dont est parti Marx. Le premier article de Marx, il parle sur le vol de bois dans les forêts. En Ariège, pas loin d'ici, il y a eu des luttes terribles au 19e siècle qui s'appelaient la guerre des demoiselles contre la privatisation des forêts. En fait, le fait que l'État français interdisait les paysans d'aller récolter du bois, faire paître un certain nombre d'animaux dans les forêts, etc., ce qui était en fait un complément de subsistance pour eux. Et aujourd'hui, par exemple, dans plein de pays du tiers-monde, en Inde notamment, la lutte des femmes chipko contre la déforestation, contre la privatisation des forêts par les multinationales, bah, c'est pour défendre l'accès à des ressources de subsistance. Voilà. Et bien sûr, la ressource fondamentale pour assurer sa subsistance soi-même, bah, c'est la terre, d'où le titre du livre. Enfin, voilà, le titre du livre, vous voyez bien toutes les ramifications qu'il y a, écologie, la terre et liberté, mais aussi terre et liberté, qui était le slogan de toutes les luttes pour la réforme agraire, pour la redistribution des terres, et terre et liberté, la terre comme condition de la liberté, comme condition de l'autonomie, comme au sens de prendre en charge ses propres besoins, ce qui suppose d'avoir accès à la terre de manière très générale. Voilà, c'est une formule terre et liberté. On pense presque exclusivement aujourd'hui à la Révolution espagnole à cause du film Land and Freedom. Éventuellement, on sait que c'était un slogan pendant la Révolution mexicaine, zapatiste, Tierra y Libertad. Mais en fait, c'est une formule qui traverse plein de luttes dans plein de pays du monde depuis très longtemps. Et moi, c'est la pertinence de cette idée-là, de cette conception souterraine qui a été invisibilisée de la liberté que j'ai voulu redéfendre à nouveau aujourd'hui. Alors, ces luttes populaires là pour l'accès aux ressources et pour la défense des biens communs, donc elle signifie quelque chose d'extrêmement important à mes yeux, c'est que s'émanciper pour les classes populaires, ça ne signifiait pas être exonéré des nécessités du quotidien, mais les assumer afin d'abolir les rapports de domination qui reposent sur l'accaparement des ressources et donc la mise sous dépendance matérielle des populations. C'est ce nœud en fait logique qui me semble crucial en fait et qui a complètement disparu de la pensée. Et donc pour le dire plus simplement, on pourrait dire que contre l'idéal de délivrance, les classes populaires, elles exigeaient l'autonomie par l'autosuffisance et l'accès aux ressources locales qui en est la condition. Et c'est avec cette conception-là de la liberté que je pense qu'il faut renouer. Et je pense que c'est à en partie ce que font celles et ceux qui aspirent à plus d'autonomie au sens matériel aujourd'hui. Moi, mon propos, c'est, je pense pas avoir, j'ai rien inventé. En fait, j'ai surtout essayé de rendre justice aux intuitions politiques d'un certain nombre de gens et de classes populaires qui n'ont pas été défendues en théorie. J'ai mis tout mon bagage universitaire, etc., tout ce que j'avais appris à l'université au service pour rendre justice à des intuitions qui ont été portées par des gens qui n'ont pas forcément ce bagage-là. Alors, je voudrais préciser quelques aspects de cette autonomie pour mieux clarifier les choses par rapport au discours sur l'autonomie tels qu'ils peuvent être portés par les pouvoirs publics. Si l'autonomie, ça suppose d'assurer sa subsistance, il faut tout de suite préciser que cette conception de la liberté, elle n'est pas purement individuelle, tout simplement parce qu'il est impossible d'assurer sa subsistance tout seul. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance matérielle, parce que c'est un mythe. Rien ni personne n'est indépendant, à proprement parler, sur Terre. Sur Terre, tout est interdépendant, on est toutes et tous interdépendants les uns des autres. Toutes les formes de vie sont en interdépendance. Donc l'indépendance... l'idéal bourgeois de la pseudo-indépendance, en fait, elle est toujours basée sur l'invisibilisation des gens dont on dépend du travail pour satisfaire ses besoins et en fait sur la mise sous dépendance de ces gens-là pour les faire satisfaire nos besoins. En fait, l'autonomie, donc elle vise pas l'indépendance, elle vise à abolir les dépendances asymétriques. Les dépendances asymétriques qui nous ligotent, qui nous mettent à la merci des puissants. Dépendances asymétriques, c'est des dépendances qui ne sont justement pas des interdépendances, c'est celles qui font que, par exemple, entre un agriculteur et les multinationales de l'agroalimentaire, il y a une telle asymétrie que les multinationales agroalimentaires, elles peuvent imposer leur prix, leurs conditions aux agriculteurs, et si l'agriculteur y refuse, et ben juste il est étranglé immédiatement. C'est la même chose entre l'individu qui demande un prêt à la banque et les multinationales bancaires et les grandes banques. Là aussi, la symétrie est telle que en fait, ça crée une dépendance unilatérale des petits envers les gros, des individus envers les grandes organisations et des peuples envers les grandes organisations mondiales. Et donc pour desserrer l'étau de ces dépendances impersonnelles ou anonymes ou structurelles, le seul moyen en fait c'est de reconstruire des interdépendances à notre échelle. On peut dire personnel ou communautaire, mais de les reconstruire sur un tout autre modèle que celle qui définissait le monde pré-industriel. Parce que, en effet, dans les villages, autrefois, il y avait des interdépendances communautaires très fortes, mais elles étaient tellement traversées de rapports de domination, notamment des dominations patriarcales, etc., que ce n'est pas ce modèle-là qu'on a en tête quand on aspire à plus d'autonomie aujourd'hui. En quelque sorte, il s'agit de réinventer la subsistance en dehors des rapports traditionnels de domination personnelle. Et je pense que c'est ce pari que font toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, tentent de se réapproprier en partie leurs conditions de vie au sein de petites structures collectives où l'on cherche à répartir équitablement les tâches entre les unes et les autres en fonction des préférences, des capacités et des situations des uns entre les autres, mais pas en fonction des sexes ou pas en fonction des rapports de pouvoir préalables. Donc ça c'était sur le côté, la dimension sociale, collective de l'autonomie, donc qui n'est pas purement individuelle. Il y a une part d'autonomie qu'on peut atteindre individuellement, on peut faire son potager tout seul dans son coin ou une maisonnée peut, mais en fait forcément on est toujours relié aux autres, il ne faut pas se leurrer, et donc c'est quelque chose c'est une conception sociale, une conception relationnelle de la liberté qu'il y a et pas une conception individuelle. Alors, en ce sens, d'une autonomie sociale et matérielle, je pense que cette autonomie, elle se joue principalement sur trois plans. Et je vais finir par ça, qui sont le plan des besoins, des techniques et des ressources. Et que je vais analyser, enfin que j'analyse à la fin du livre, en commentant trois formules qui détaillent en pratique ce que peut vouloir dire « assurer notre subsistance ». Si la liberté comme autonomie, c'est assurer notre subsistance, alors ça revient à pourvoir à nos propres besoins, faire par nos propres moyens, ça c'est le côté technique, et vivre de nos propres ressources, ça c'est le côté ressources. Alors, pourvoir à nos propres besoins, alors ça signifie être capable de les couvrir sans passer par le supermarché industriel mondial, capitaliste. Et quand on pense à ça, tout de suite, aujourd'hui, enfin, ça, c'est un effet de l'individualisme contemporain, et dans lequel on est tous nés, dont on est tous, moi aussi, un tributaire, on pense tout de suite à faire par soi-même, faire tout seul dans son coin, éventuellement le côté DIY. Ben, moi, en fait, je pense que c'est un biais qu'il faut éviter, parce qu'en fait, ça, le DIY pavillonnaire tel qu'il se développe en partie aujourd'hui, ça peut être source de gentrification, de domination sociale, et en fait, un enfermement encore dans la même logique. En fait, dans la conception de l'autonomie que je défends, le moment relationnel, réinventer d'autres manières d'échanger avec les autres, prime sur le moment strictement matériel, faire par soi-même ou par nous-mêmes. C'est-à-dire que la première chose à se réapproprier, c'est notre manière de nous relier matériellement les uns aux autres, de faire circuler les biens, les idées, les affects, etc. C'est surtout ce plan-là qui est important. Donc, quelque part, d'abord, privilégier la construction d'autres circuits d'échange, parce qu'on en a toujours besoin. Il peut y avoir d'ailleurs des circuits d'échange qui ont une dimension marchande, mais qui peuvent être un pas vers des formes d'autonomie. Quand on est dans des petites formes d'échange marchand entre personnes qui essayent de s'en sortir à la campagne, c'est différent. C'est pas tout à fait tout de suite recréer le capitalisme comme certains le pensent, qui fétichise ou qui démonise les rapports monétaires. Mais bien sûr, il y a d'autres circuits plus intéressants, bien sûr, de troc, d'entraide communautaire, etc. Mais voilà. Mais en tous les cas, il faut pas se focaliser juste sur le DIY. C'est un moment, mais ce n'est pas le moment principal. Le moment principal, c'est la dimension sociale et relationnelle. Et sinon, dans cette idée de pourvoir à nos propres besoins, je pense qu'il y a une autre idée qui est importante. C'est que, et je vais revenir sur une idée sur une idée que j'ai déjà développée un petit peu au début, c'est que pour être en mesure de pourvoir à nos propres besoins, il faut les avoir redéfinis. Afin de les réduire. En fait, il faut que ces besoins, ce soient nos besoins et pas ceux qui nous ont été imposés par le système. Parce que, en fait, ces besoins infinis qui nous sont imposés par le système, on ne pourra jamais les couvrir parce qu'ils sont infinis, justement. Il y a une impossibilité. Et par contre, quand on se remet à faire les choses soi-même ou à échanger dans des circuits à l'échelle locale, des choses dont on a besoin, on est forcément amené à réfléchir à ce dont on a vraiment besoin. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ces besoins? Et ça, cette réflexion sur l'autonomie des besoins, est-ce que ces besoins, ils sont à nous? Est-ce qu'on les a décidés de manière autonome ou pas? C'est un des éléments cruciaux de la question de l'autonomie aujourd'hui. Alors maintenant, j'en viens à l'autre formule, faire par nos propres moyens, donc la dimension technique. Alors là aussi, faire par nos propres moyens, il ne faut pas se focaliser que sur la technique. Nos propres moyens, d'abord, c'est nos moyens humains. C'est les ressources, les gens avec qui on est en contact humainement autour de nous. Donc c'est l'entraide, en fait, c'est la capacité à, au lieu de faire recours à des professionnels qu'on paye, toujours se demander si je ne peux pas faire telle chose avec un copain ou une copine pour me passer de ce recours systématique à des professionnels et à des entreprises. Donc le côté assistance mutuelle, entraide, qui a été au cœur en fait, du mouvement ouvrier au 19e siècle, par exemple. C'était une des bases, le mouvement mutualiste. Et sinon, sur le plan technique, faire par nos propres moyens, ça implique de faire le tri entre les outils qui soulagent nos efforts et qui renforcent l'autonomie individuelle ou collective, et les technologies qui, en prétendant nous délivrer de tout effort, nous rendent en fait dépendants des industries qui les produisent. C'est-à-dire que moi, ce que je ne défends pas, là, je ne défends pas une espèce de mode de vie ascétique où il faudrait faire tout faire, alors ni tout seul, ni même bosser comme des Russes. S'il y a des moyens techniques qui nous permettent de soulager nos efforts sans nous rendre dépendants de grandes entreprises, c'est génial, il faut y aller. Et de ce point de vue-là, la technique, c'est très bien. Mais ce qu'on appelle technologie aujourd'hui, bien souvent, c'est plutôt une espèce de promesse de nous simplifier la vie, de nous délivrer des tâches du quotidien. Mais ça, la contrepartie, c'est systématiquement qu'on devient dépendant des technologies qui nous permettent ça, donc de l'argent pour nous payer ces technologies, donc des emplois disponibles sur le marché du travail pour gagner cet argent qui nous permet d'avoir ces technologies, qui nous permet de nous délivrer. Et en fait, cette série de dépendances, c'est ça qui nous enferme dans le mode de vie actuel. Voilà, et donc tout ça, ça veut dire que l'autonomie, ça dépend des caractéristiques des outils qu'on utilise. Il faut qu'ils soient à taille humaine, facilement réparables, facilement réappropriables et productibles par les gens eux-mêmes. Et donc, cultiver notre autonomie, ça suppose de nous émanciper de la fascination pour la technologie, qui est tellement forte aujourd'hui, et du mythe aussi de la neutralité technique. Bien sûr, tous les outils se prêtent à divers usages, mais pourtant, ils ont une consistance propre qui font qu'ils ont des effets, quel que soit l'usage qu'on en fait. En fait, c'est cette seconde partie qu'on tend à oublier quand on a l'argument « Ah, mais tout dépend de l'usage, il y a les méchants qui en font un mauvais usage, mais s'il n'y avait que des gentils, voilà. » Ben non, en fait, les outils techniques, ils ont des effets par eux-mêmes. Et ça, quel qu'en soit l'usage, et surtout quelles que soient les intentions plus ou moins bonnes ou mauvaises supposées des gens qui les utiliseraient. De ce point de vue-là, il y a un super bouquin qui analyse bien plus que moi dans mon bouquin. C'est un bouquin de l'Atelier Paysan qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines ». L'Atelier Paysan, c'est une coopérative d'autoconstruction de matériel agricole qui met en ligne des méthodes pour fabriquer soi-même ou réparer soi-même ou améliorer soi-même pour les paysans, leurs outils, et qui font des stages pour apprendre à souder, à travailler le métal, etc., pour apprendre à se créer des outils par eux-mêmes. Et c'est absolument génial le travail qu'ils font en termes d'autonomie matérielle et paysanne. Voilà, le dernier volet, c'est vivre de manière autonome, c'est aussi vivre de nos propres ressources. Et donc ça veut dire deux choses importantes. C'est d'abord, ça implique... Nos propres ressources, c'est quoi? C'est les ressources locales, c'est les ressources territoriales d'une communauté qui aspire à plus d'autonomie. Et donc, ça implique de faire avec ce qui est à portée de notre main sur la base de ce que permet notre région. Et donc, ça veut dire que l'autonomie, elle prend forcément des formes complètement différentes selon qu'on vive à la montagne, en bord de mer, à la campagne, dans les villes, etc. Voilà, il y a une diversité. Il n'y a pas de modèle universel absolu de l'autonomie parce que, en fait, ça implique un certain ancrage local et d'assumer cet ancrage local. Et ça, ce n'est pas forcément s'enfermer dans le chauvinisme. Le chauvinisme, c'est penser que là où tout ce qu'on fait, nous, c'est mieux que les autres. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de dire on va vivre sur la base de nos propres ressources parce qu'on n'a pas envie de bénéficier des ressources de peuples qui sont en réalité exploitées par des grandes multinationales qui nous apportent tout ce qu'on veut sur un plateau à condition qu'on se vende à ces mêmes organisations pour avoir de l'argent pour s'offrir tout ça. Et le deuxième plan de vivre de nos propres ressources, c'est que, bien sûr, cette autonomie, elle suppose qu'il y a un très large éventail de ressources soit accessible. Et donc, ça implique nécessairement une critique de la propriété privée. Ça implique, en fait, pour qu'un large éventail de ressources soit accessible à toutes et à tous, largement dans une région ou dans un territoire donné, il faut qu'il y ait des communs, des formes de propriété collective, donc des espaces où que personne n'a le droit de s'approprier de manière privative et où tout le monde a le droit de venir prélever au fil des saisons et au fil de sa propre vie. Donc, et en fait, ça a été le cas dans toutes les communautés paysannes. Il y a toujours eu, dans toutes les formes d'organisation paysanne par le passé, il y a toujours eu des différentes... Il y a eu des lopins de terre à usage strictement privatif, des terres arables cultivées en commun ou pas d'ailleurs, mais aussi des communs, des communaux, où les gens pouvaient prélever un certain nombre de ressources indispensables pour satisfaire leurs besoins, que ce soit des plantes médicinales, du gibier, du bois pour se chauffer et construire ses maisons, de l'argile pour faire la maison, des pierres, etc., etc. Et la domination sociale, elle a toujours basé la première chose, en tous les cas la domination capitaliste, c'est de s'accaparer de ces ressources-là pour rendre les gens dépendants et les forcer à vendre leur force de travail aux grands propriétaires fonciers ou aux patrons des usines. Voilà, donc cultiver son autonomie ou vivre de nos propres ressources, ça implique aussi de défendre et en partie de réinventer, de reconstituer des formes de propriété collective, des communs, des communaux et aussi des formes de gestion collective d'un certain nombre d'outils partagés en termes de santé, d'irrigation, d'accès à l'eau, etc. Voilà. Alors, je vais essayer de résumer tout ça en toutes petites phrases pour faire comprendre certains enjeux aussi du titre du livre avant de vous laisser d'écouter vos questions et ou vos réactions. Donc, pour résumer, en fait, la modernité, la conception moderne de la liberté, elle reposait en fait sur quoi ? Sur l'aspiration à être délivré de la terre et des activités de subsistance qui étaient liées. Délivré de la terre parce que la terre, c'était la condition des paysans et les paysans, c'était les parties les plus méprisées de la population. C'est les gens qui ont toujours été dominés presque depuis la plus haute antiquité. Donc, le travail de la terre, c'était associé à la domination, à la subordination et pas à la liberté. Et en regard de ça, on a développé une conception de la liberté complètement basée sur la vie urbaine. S'émanciper, c'était en général partir des campagnes, s'installer à la ville. L'ère de la ville rend libre, c'est un des slogans de la modernité qui est partagé par la plupart des auteurs modernes. Mais en fait, la généralisation de ce mode de vie délivré de la terre et des activités de subsistance qui y sont liées, il menace aujourd'hui, je pense, de transformer la terre en désert. Au point que les ultimes partisans fanatisés de ce mode de vie, ils nous proposent d'aller vivre sur Mars. Je pense à Elon Musk et à toute cette bande, et à notre Thomas Pesquet national qui fait la promotion de la conquête spatiale et de tout ça. Et moi, en fait, je pense que ça, c'est une conception complètement extraterrestre de la liberté, une conception de fou qui conduit, en fait, qui est une des matrices idéologiques du saccage en cours. Et donc, contre cette conception-là, je défends l'idée avec plein de peuples qui défendent cette idée-là aussi par le monde et plein de gens aussi dans nos pays, qu'il faut renouer avec une conception terrestre de la liberté, une conception qui est compatible avec nos conditions de vie sur Terre. Et donc, c'est l'autonomie dans le sillage de tous les mouvements politiques dans le monde qui ont pris pour devise Terre et Liberté, que j'ai repris en titre de l'ouvrage. Voilà. Ouais, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que des effets de la gestion de la crise sanitaire aujourd'hui, ça a été quand même de fracturer beaucoup de collectifs, en fait, de surrajouter aux tensions et aux clivages qui traversent, aux différents clivages qui nous traversent et qui rendent parfois les choses compliquées pour s'organiser collectivement. En rajouter encore un, le rapport à la peur que suscite ou pas cette maladie, le rapport à la peur ou pas que suscite la vaccination et l'utilisation de biotechnologies complètement nouvelles, et le rapport aussi au pass sanitaire, en fait, et qui, déjà dans les collectifs, c'est compliqué de faire collectif, de faire des choses ensemble. Quand on a partage d'idées politiques, il peut y avoir aussi des difficultés parce qu'à l'intérieur des clivages politiques, il peut y avoir des clivages de genre, qui peuvent venir miner complètement la constitution de collectifs larges. Et puis, là, il y a encore eu une nouvelle fracture qui est venue se rajouter, et c'est à se demander, en fait, quasiment si une partie des intentions des gouvernants dans par exemple dans l'imposition, dans la manière dont le pass sanitaire a été mis en place, ou la politique vaccinale, ça n'a pas été d'introduire des lignes de fracture supplémentaires dans les syndicats, dans les collectifs, parce que ces choses-là sont hyper difficiles. Donc, en effet, en tous les cas, l'autonomie sociale collective que je défends, elle implique de sortir de certaines formes d'atomisation sociale et donc de s'organiser collectivement. Et ça, c'est pas facile. Plus il y a de clivages qui nous divisent, plus c'est difficile d'avoir des formes d'organisation qui dépassent un petit peu un entre-soi de gens très, très soudés. Et voilà. Et sur le côté vasectomie aussi, il y a toute une... Là, je ne l'ai pas... à développer, mais en fait le mot délivrance, il a toute une histoire que je retrace dans le livre, mais il y a tout aussi tout un rapport direct avec toute une question de lien avec l'accouchement, avec l'accouchement et donc la condition féminine. C'est-à-dire que la délivrance, en termes techniques, c'est aussi la dernière phase de l'accouchement, l'expulsion du placenta. Et c'est frappant de voir à quel point dans les grandes mythologies de la délivrance, cette question des souffrances liées à l'accouchement a été centrale. Par exemple, la Bible, les malédictions. À l'origine, Adam et Ève, ils vivent une vie délivrée du travail et de la nécessité de s'organiser avec les autres dans le jardin d'Éden. Ils ne sont soumis ni au travail, ni à la maladie, ni à la mort, ni aux dissensions politiques. C'est l'harmonie parfaite, etc. Et tout le monde est dans la bonne théocratie divine. Et donc, vous connaissez l'histoire, ils ont péché, ils sont expulsés. Et là Dieu punit, maudit la terre et maudit la condition humaine et impose trois malédictions. Le travail physique, dont on va chercher à se délivrer, les souffrances de l'accouchement et de l'enfantement pour les femmes, et la mort, poussière, tu redeviendras la poussière, et la quatrième malédiction étant la malédiction de la politique. C'est pas dans la Genèse, mais c'est les premiers chrétiens, ils ont toujours considéré que la politique, les difficultés à s'organiser les uns avec les autres, c'était une punition consécutive à la chute. C'était une des parties de... Et donc, en fait, tout notre imaginaire occidental, dans le monde judéo-chrétien, il a été complètement obsédé par cette idée de se délivrer de tous ces maux-là. Et c'est frappant de voir que la médecine a essayé de nous délivrer de la souffrance, la robotique de nous délivrer du travail, le transhumanisme prétend maintenant nous délivrer de la mort, et la représentation politique, les libéraux sont toujours présentés comme on va délivrer les gens de ces tâches ingrates qui sont de s'organiser avec les autres. Ça implique des réunions permanentes, de la conflictualité, de la rivalité, des trucs pénibles. C'est un petit peu tout ça, l'imaginaire de la délivrance. Et c'est marrant de voir comment le mouvement féministe dans les années 70, quand il s'est constitué dans les années 70, c'était déjà constitué avant, mais il y a eu un moment donné où il y a eu cette idée, on ne veut pas être délivré. Ne nous prenez pas en charge, ne nous libérez pas, on s'en charge nous-mêmes. On va être autonome nous-mêmes, et ça s'est passé notamment chez le MLAC par le fait de se réapproprier aussi de la gynécologie pratique, l'avortement pratiqué par des femmes de manière clandestine, et aussi de revaloriser aussi des formes d'accouchement qui ne passaient pas par être délivré de la souffrance, mais de trouver des moyens de la rendre supportable collectivement, en l'affrontant soi-même, etc. Donc il y a aussi toute une... Dans toute la question de la contraception, de la natalité, de la procréation, la subsistance, c'est quand même aussi ça, la procréation et tout ce qui est lié autour de ça. Et il y a toute une tension entre des volontés d'autonomie ou des volontés de délivrance, volonté d'être délivré de ces tâches-là qui sont complexes, et puis des volontés, au contraire, de les reprendre en charge. En fait, il y a des gens qui m'ont dit que cette opposition, je ne l'aborde pas dans le livre, mais qu'elle avait qu'elle était éclairante pour des débats à l'intérieur du féminisme que je ne connais pas tous, mais voilà. C'est ça m'a fait penser aussi à la référence à la vasectomie, qui est une manière pour les hommes de se réapproprier la question de la contraception de manière très efficace. Ouais. Ouais, il y avait un copain là qui me racontait que dans le Rojava actuellement, il y avait toute une zone là qui avait été complètement délaissée, abandonnée, parce qu'en fait, le côté maquis qui y avait devenait impossible en fait avec la présence des drones permanents de l'armée turque, etc. En fait, qui rendaient en fait ces formes de villa impossible. Alors, je dirais que c'est sûr que de toute façon il y a un lien. Bon, les apatistes ont dû expulser les forces militaires d'une région qui n'était pas présente comme en Europe, mais elles étaient quand même là. Donc ça a commencé par l'autonomie zapatiste, ça a commencé par une insurrection contre l'État, une reprise, une réappropriation d'une portion du territoire du Chiapas. Et au Kurdistan, il y a toujours eu un mouvement kurde très fort, Mais c'est vrai que la construction de l'autonomie et du confédéralisme démocratique a été boostée à partir du moment où le pouvoir syrien s'est effondré lors de la révolution en 2011. Et là, bien sûr, c'est grignoté à mesure que ce pouvoir-là se reconstitue et que la Turquie aussi se reconstitue. Néanmoins, moi, je pense quand même qu'on peut, en tous les cas, Yves, l'autonomie au sens que je défends, moi, voilà, j'ai essayé d'être un petit peu... voilà, d'aller jusqu'au bout d'une idée logique, un petit peu d'une réflexion logique pour dégager un horizon. Après, je ne suis pas rentré, je n'ai pas essayé de faire un projet de société. Je dessine un horizon désirable. J'essaye de, parce que je pense qu'en fait, tant qu'on sera dominé par l'imaginaire de la délivrance, on ne fera que reproduire le système bien malgré nous. Mais je n'ai pas essayé de faire un projet de société parce qu'un projet de société, ça impliquerait d'examiner les conditions dans lesquelles on est pour penser le chemin qui pourrait nous mener vers... Et ça, bon, alors, les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui, elles sont cataclysmiques en France. Et en effet, en tous les cas, je pense que si on peut aspirer à de l'autonomie aujourd'hui, ce sera dans un sens très restreint. Ça commencera par des petites choses assez restreintes et limitées. Mais je pense que c'est néanmoins à partir de ça qu'on pourra peut-être construire des choses nouvelles. Et qu'en tous les cas, c'est cet imaginaire-là qu'il faut alimenter. Et par contre, il ne faut pas... voilà, ce bouquin, il a été en partie écrit... Enfin, il est en partie écrit contre deux écueils. L'écueil de celles et ceux qui pensent qu'il suffit de construire des formes de vie alternatives dans des espèces de niches écologiques à la campagne sans lutter contre le système. Et voilà, parce qu'en fait, ces niches-là, ça n'existe pas. On se fait toujours rattraper par le système. Et en fin de compte, moi, produire mes propres chaussures dans un monde où on produit des centrales nucléaires et où on produit, ou dans une ville où on produit des missiles nucléaires comme Toulouse, en fait, j'en ai rien à cirer à la limite. Enfin, c'est vraiment la portion tellement congrue que c'est pas ça qui m'importe. Et ça, c'est le premier écueil, ce qu'on pourrait l'alternativisme dépolitisé, en fait. Voilà. Et le deuxième écueil, c'est l'idée qu'on pourrait lutter contre le système existant sans construire des formes de vie qui soient pas tributaires de ce système-là, quoi. Donc qu'on pourrait se jeter à corps perdu dans la lutte sociale urbaine avec un mépris profond pour toute construction de formes de vie alternatives, parce que justement, ce serait des trucs d'alternatives. En fait, il faut bien voir que notre histoire politique, en fait, la contre-révolution qui a eu suite au dernier moment où le cocotier capitaliste a très sérieusement été secoué dans les années 60-70. Cette contre-révolution, elle s'est traduite notamment par le fait que voilà, il y a eu un clivage entre la lutte à couteau tiré contre le monde existant, action directe, on va dire, etc., la lutte armée, et la construction de formes de vie alternatives à la campagne, les bio, les alternativistes, et que ça s'est séparé. Moi, je pense en fait qu'il faut absolument que ces deux trucs ils se rejoignent, qu'ils s'alimentent, et qu'on cesse de mépriser, que les militants urbains cessent de mépriser les alternatives, et que les alternatives cessent de se dire « Ah, mais c'est complètement vain de participer à des luttes sociales, il faut s'occuper de son potager et s'occuper de ses chiottes sèches, ça suffira. » Moi, je pense qu'il faut que, au moins dans l'imaginaire, que ces deux choses-là soient vues comme complètement complémentaires. Et en fait, c'est l'enseignement, voilà, l'autonomie aujourd'hui, là, le modèle un petit peu le plus abouti, moi, je trouve, c'est le modèle, c'est le zapatisme. Hein. Enfin, en tous les cas, moi, ça m'a clairement influencé et alimenté. Et voilà, et les zapatistes, c'est c'est l'articulation permanente entre la lutte armée et la construction de l'autonomie matérielle. Les deux choses sont pas séparées, elles vont ensemble. Alors, bien sûr, les conditions sont totalement différentes aujourd'hui. On va pas pouvoir... l'autonomie, ce sera forcément local. Il n'y a pas de modèle universel. Les zapatistes peuvent nous inspirer et c'est super ce qu'ils font. Bien sûr, ce n'est pas un modèle à suivre. Mais en tous les cas, il faut articuler ces deux choses-là. Et voilà. Et la révolution qu'il faudrait, si elle ne veut pas boiter, elle sera obligée de marcher sur les deux jambes de l'autonomie matérielle et de l'autonomie politique. Les luttes sociales d'un côté et la construction d'alternatives viables. Et voilà. Et donc... aujourd'hui, on peut cultiver dans les moments d'apathie politique ou où il n'y a pas de grands mouvements sociaux. C'est déjà bien de cultiver des formes d'autonomie matérielle, de s'organiser pour être un petit peu moins dépendant du système. Et puis après, par contre, si on veut faire quelque chose, il va falloir des luttes sociales de grande ampleur, là, pas juste micro-locales, pour réussir à créer des choses, à faire reculer un petit peu, à changer la donne politique dans nos États. Donc vraiment les deux choses, quoi. Ouais. Ouais, bah là, c'est des questions très délicates sur lesquelles j'aurais à dire que, en effet, bah, l'autonomie, il y a une question de taille, en effet. Plus l'échelle de l'organisation sociale est vaste, plus il y a des effets d'hétéronomie, plus ça a des effets d'hétéronomie, en effet, et de telle sorte que au-delà d'une certaine taille, il y a des problèmes qui se posent. Mais en même temps, voilà, il ne faut pas nier le fait qu'il y a des questions qui ne peuvent se poser qu'à des échelles régionales, voire peut-être plus vaste. On peut penser par exemple à des questions de gestion de l'eau, ou là, bah, ça, penser à ça à l'échelle d'un bassin versant, en fait, mais parfois les bassins versants, c'est quasiment des continents, en fait, ou des choses comme ça. Donc en effet, ça pose des questions hyper délicates. Ça, la tradition de pensée anarchiste et politique, bien au-delà de l'anarchisme, il y a eu cette idée de fédéralisme quand même. Cette idée que, en tout cas, le système dans lequel on vit, c'est pas juste un problème de taille, c'est un problème en fait de comment ça fonctionne. En fait, on est dans des structures de pyramidales où ça va du haut vers le bas systématiquement, enfin de la tête de l'État jusqu'en bas, dans des États très centralisés, jacobins comme la France, ça va comme ça. Et donc l'idée de fédéralisme, ce serait l'idée que voilà, on montrait, y aurait des passages et des échelles supérieures, mais ça viendrait de délégations, ça viendrait pas en bas. C'est ce que font les apatistes, et d'ailleurs les Kurdes aussi, il y a tout un système de délégation de pouvoir vers des échelles cantonales, puis régionales, voilà, d'un système où il y a des délégués, plutôt qu'un système où il y a des décisions centrales qui sont prises et qui ruissellent du haut vers le bas. Ça peut donner des éléments. Mais moi, ce qui me semblait important en tous les cas, c'est de souligner le fait. Peut-être, moi, je pense qu'en effet, il y a forcément une part institutionnelle ou impersonnelle dans les formes d'organisation. Mais ce qui me semblait important, c'était de revaloriser déjà l'échelle un petit peu micro-locale, le fait qu'il y a un enjeu à se réapproprier des questions matérielles à l'échelle d'un quartier dans une ville, à l'échelle d'un village ou d'un canton, qu'il y a des enjeux très forts là-dedans, et que, parce qu'en fait, notre impuissance politique, elle est en partie liée au fait que, bah voilà, que toutes ces questions-là, on les a déléguées à des instances supérieures et que voilà, et qu'on est tétanisé par l'idée que tout s'effondre parce qu'on ne saurait plus s'organiser. Et donc je pense qu'il y a voilà déjà d'essayer de revaloriser tout ça et puis de le repratiquer, ça me semblerait très utile politiquement, à la fois pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons de confiance en nous, en notre capacité à nous organiser, à faire autre chose que suivre les règles qui viennent d'en haut, etc. Et après, bon bah voilà, la question de savoir à partir de quelle échelle les formes d'hétéronomie impliquées sont insupportables et font qu'en fait on préfère ne pas. Ça, c'est peut-être des questions qui devront être résolues par les communautés elles-mêmes, les gens qui s'auto-organisent. Et je ne sais pas si le philosophe, le théoricien, le je ne sais qui, il peut répondre à ça. Il y a plein de débats aujourd'hui, il y a plein de géographes là, qui réfléchissent. Est-ce que la ville résiliente, autonome, machin de demain, est-ce qu'elle ferait 50 000 habitants, 500 000 habitants, etc. Je pense que c'est vraiment des débats un petit peu... Enfin voilà, c'est des débats un petit peu de planificateurs sociaux. Et en fait, moi, j'ai pas voulu me mettre dans cette perspective-là. Alors, du coup, il y a des points aveugles, parce qu'il y a quand même des questions d'organisation sociale à grande échelle qui se pose. Mais moi, j'ai surtout voulu revaloriser le geste de sortir de ce... de la planification sociale, du projet de société à clés en main, etc. Et de dire, en fait, je voulais casser tout ce qui nous inhibe à essayer de penser notre propre capacité à nous organiser, à produire une partie de notre subsistance et à notre échelle. En fait, voilà, c'est surtout ça que je voulais faire. Mais il y a lit des histoires des villes, en fait, parce que les villes, ça existe depuis 5000 ans, en fait, et plus. Et donc, il n'y a pas que la société de consommation, il y a plein de formes d'hétéronomie qui datent d'avant. Mais en fait, moi, mon propos, c'est pas de revenir aux formes de vie préurbaines d'il y a 5000 ans. En fait, il y a eu 5000 ans d'histoire des villes autonomes. Voilà, Lewis Mumford, c'était quelqu'un qui, bon, je me sens très proche, il a écrit un livre magnifique qui s'appelle La cité dans l'histoire, où il décrit en fait comment les cités ont été autonomes pendant la majeure partie de leur temps. Elles étaient basées sur des villes de citoyens paysans, très souvent, où il y avait énormément de choses qui étaient prises en charge par la cité elle-même. C'est des formes d'organisation à petite échelle, mais qui pouvaient déjà être assez grandes. Enfin, voilà, il y a des villes. Voilà, il y a pas tout le temps, mais en tous les cas, voilà. Ou par exemple, en fait, tu vois, pensons j'ai lu des trucs là, il y a pas longtemps, en fait, les villes françaises, la plupart des villes françaises étaient autonomes en électricité, ont été autonomes en électricité, en eau, etc. pendant hyper longtemps. La nationalisation et la centralisation de la production électrique en France, ça date des plans Messmer, en fait, ça date du nucléaire. Avant, il y avait des régies municipales de production d'électricité qui étaient dans presque chaque canton, dans chaque village. Alors, pas partout, parce que certains avaient des ressources plus faciles, mais il y avait plein de formules qui ont été inventées. Et donc, il y a des manières, en fait. Il faut pas s'enfermer dans le présent, et pour ça, il faut lire de l'histoire. Il y a eu des villes, des villes super, avec des formes d'autonomie très intéressantes sur le plan matériel. Au moins, il y a eu des formes de domination politique aussi, mais pendant assez longtemps. Et peut-être qu'il faut réussir à s'inspirer de ces éléments-là pour repenser des choses pour plus tard. Mais encore une fois, voilà, moi, ce livre-là, voilà, il ne prétend pas donner toutes les solutions pour réorganiser la société. Voilà, il cherche surtout à nous libérer, nous émanciper d'un imaginaire et défendre un autre imaginaire. Mais il y a plusieurs questions, donc voilà. Non, ça c'est en effet, c'est pas simple. Moi aussi, dans la région où je vis en yourte, et il y a des yourtes qui ont cramé, etc. Je pense que là, sur la question de l'habitat notamment, enfin, l'habitat, c'est un des verrous, en fait, pour nous faire bosser, en fait. C'est en nous rendant dépendants soit des loyers, soit des dettes qu'il faut rembourser à vie pour payer sa baraque. C'est ça qui nous enferme dans le fait de devoir aller travailler. Et ça, tout le monde en est conscient, en fait. Et du coup, je pense que les gens qui ont des modes d'habitat différents, en fait, ça suscite... Moi, je me suis souvent dit que c'est, en fait... Il y a sans doute une part de haine de l'autre, parce qu'on ne connaît pas, machin, etc. Mais il y a surtout un truc... Quoi, lui, il va s'exonérer de bosser toute sa vie comme moi je l'ai fait pour payer sa baraque, quoi. Et non, en fait, c'est l'égalité républicaine, on est tous logés à la même enseigne, et donc soit tu t'endetteras, soit tu payeras un loyer, mais de toute façon, voilà, tu iras bosser pour payer ton... Et c'est vrai que c'est relayé en partie par certaines catégories de population qui sont très virulentes autour de ça, et parfois ça peut être hyper dur à la campagne. Après, ça dépend des endroits. Je pense qu'il y a aussi des manières de faire. Parfois, il y a des c'est compliqué, mais parfois il y a des manques d'attention aussi à la manière dont la manière dont on s'inscrit dans un territoire à partager. Voilà, il y a toute une attention à... Parfois une finesse à avoir, de ne pas arriver avec ses gros sabots d'urbain, etc. C'est pas entièrement facile. Et donc, voilà, il faut aussi se dire ça pour celles et ceux qui voudraient s'installer à la campagne. Moi, je leur dis, voilà, allez-y, mollo, soyez tranquille, allez parler à vos voisins, c'est hyper bien. Il y a aussi des préjugés qui tombent comme ça, c'est hyper intéressant, c'est un travail un petit peu micropolitique, mais voilà, et ça implique parfois de ça peut faire des très bonnes surprises ou des très mauvaises. Moi, je me suis, en l'occurrence, c'était très marrant pour une histoire, vraiment, une petite anecdote, mais que j'aime bien raconter. Quand on s'est installé, on était trois qui débarquaient de Paris, dont un copain qui s'appelle Faisal, donc qui est marocain d'origine, et dans un tout petit village de 80 habitants. Et on ne sait pas pourquoi, en fait, il y a une famille, il y a une femme qui nous a tout de suite aidés, en fait, parce qu'on a vu une maison qui était géniale, qui était à vendre. Mais en fait, on s'est dit qu'on pourrait la louer à l'époque. Et donc, il y a une dame qui passait par là, qui nous a demandé, elle nous a pris sous son aile, on ne sait pas pourquoi. Elle a appelé le propriétaire qu'elle connaissait, elle lui a dit, écoute, là, il y a des jeunes gens, ils ont l'air très sympas, descends de Bretagne, là, tu pourrais la louer, là, ça fait 10 ans qu'elle est en vente ta maison, tu ne la vends pas, donc au moins loue-la, ils ont l'air hyper sympas. Bon, et puis bon, maintenant on habite depuis 12 ans, 13 ans là-bas. Et en fait, il s'est révélé, mais très vite on s'en est rendu compte, que cette femme, c'était la matriarche d'un clan très important du village, la famille, tous les hommes, chasseurs et anciens militaires. Donc vous pouvez imaginer les options politiques de la famille qui vont avec. Et voilà, et en effet, c'est une famille où tout le monde vote Front National. Et ils ont fait des pieds et des mains pour qu'on puisse s'installer dans le village. Et quand ils venaient nous offrir du sanglier, parce que ça, quand les chasseurs, ils essayent d'acheter la paix sociale et leur légitimité en faisant des offrandes régulières à certaines personnes, donc en offrant, bah quand ils venaient nous donner du sanglier, cette dame Solange, elle cuisinait un plat spécial pour Faisal, parce qu'elle savait que Faisal ne mangeait pas de sanglier parce que c'est du cochon. C'est des gens qui votent Front National. Donc ça... Voilà, avec nos préjugés, ça déboussole, ça déboulonne un petit peu les préjugés urbains, etc. Et donc, il faut réussir à... Là, je ne sais pas comment on a fait. Enfin, là, c'est surtout elle qui a déboulonné ses propres préjugés vis-à-vis de nous, manifestement. Et voilà, mais quelque part, ben voilà, il y a eu un petit truc là qui a fait que dans une autre situation, peut-être que le geste de trop ou le sourire qui allait pas, et ben on aurait eu cette famille ado, on n'aurait jamais pu louer cette maison, et puis si on avait pu la louer ou machin, on aurait eu plein de problèmes parce que on aurait eu les chasseurs et voilà ado, et ça aurait été très désagréable. Mais bon, voilà, mais en effet c'est pas du tout facile. Moi d'ailleurs, un truc aussi que je dis, j'essaye pas de vendre du rêve. Moi, toute une part du bouquin, c'est aussi la délivrance. Ce dont on veut être délivré, c'est, je l'ai dit un petit peu à la fin, c'est aussi toutes les nécessités politiques de la vie, de la vie humaine, c'est-à-dire la coexistence avec autrui, la nécessité de s'organiser avec les autres. Je n'ai pas centré mon propos sur la délivrance matérielle. Mais en fait, c'est deux plans qui s'alimentent en permanence, parce qu'à partir du moment où la subsistance, elle est collective, ce qui est pesant dans le fait d'assurer sa subsistance collectivement, c'est de s'organiser avec les autres, en fait. Et parfois, en fait, c'est juste insupportable, en fait. C'est très difficile. On est dépendant des autres, on ne les supporte pas. Il y a une insociable sociabilité en nous qui se manifeste toujours en permanence. Et du coup, en fait, un des principaux obstacles de l'autonomie, je pense que c'est la volonté d'une vie paisible, sans conflit, etc. Il faut l'autonomie, c'est aussi accepter une certaine culture de la conflictualité, une acceptation de la conflictualité comme une part inhérente et indépassable de notre vie collective. Les conflits, ça se pose dans tous les groupes, les couples, les groupes d'amis, les groupes politiques, etc. Il n'y a pas de vie sociale réelle sans conflictualité, sans moment. Et une culture de la conflictualité, c'est aussi une manière de réussir à faire en sorte que la conflictualité ne devienne pas explosive, c'est-à-dire qu'au moindre conflit, le groupe ne se fracture pas, ne soit pas dissous. C'est le juste équilibre là-dedans. Et donc, c'est accepter qu'on ne va pas avoir une vie tranquille, qu'il y aura toujours des problèmes, il va toujours y avoir des conflits. Et voilà, mais il ne faut pas les fuir, il ne faut pas tenter de les refouler. Et il faut essayer de faire en sorte qu'ils ne soient pas explosifs. Donc là aussi, j'ai pas de recette. Mais il y a une attention à avoir là-dessus. Ouais. C'est sûr que c'est hyper difficile. Enfin, t'as tout à fait raison en fait sur le voilà. Encore une fois, le Zapatine, c'est un modèle qui a pu marcher là-bas, mais qui pas pour nous pour cette raison-là, pour plein d'autres raisons, etc. Mais c'est sûr que c'est compliqué. Après, moi, j'ai envie d'insister sur le fait que l'autonomie comme assurée, enfin voilà ce que j'ai défendu. Pour moi, le modèle, c'est pas les vieilles sociétés paysannes, enfin d'il y a 3 siècles. Ou voilà, je pense que quelque part, enfin quand on regarde, je sais pas si vous avez regardé des photos, même des grandes villes de Paris dans les années 30. Il y a des animaux, il y a des fermes dans Paris, il y a plein de formes de ça. Un truc qui est très marrant sur le plan de l'histoire intellectuelle, c'est un des grands défenseurs de l'idée d'autonomie, c'est un type qui s'appelle Ivan Illich, qui est un des penseurs associés à l'écologie politique. Lui, il est un grand bourgeois viennois, il fait des grandes études, qui a été au Vatican, qui était très catholique, etc. Et en fait, il a découvert l'autonomie. En fait, il s'est fait nommer prêtre et elle a sa première prêtrise, son sacerdoce ou sa chaire, il l'a eu à New York dans une communauté portoricaine. Et dans ses mémoires, il raconte que c'est là qu'il a découvert l'autonomie. C'est-à-dire, c'est dans les années 50, dans une des plus grandes mégapoles du monde à l'époque, qui était encore une taille rien à voir avec Shanghai ou Mexico City aujourd'hui, mais ça devait être une ville de plusieurs millions d'habitants. C'est là qu'il a découvert des gens qui faisaient du petit élevage, qui avaient des pratiques de subsistance hyper poussées, en fait. Et en fait, c'est au contact de cette communauté portoricaine qu'il a découvert, en fait, à quel point, en fait, il y avait quelque chose de fort, de puissant dans le fait de faire les choses par soi-même, d'assurer sa subsistance par soi-même. Et c'est ça qui a nourri, en fait, tout ce qui a conduit à ces réflexions sur l'écologie dans les années 70. Donc c'est assez marrant de voir ça. Et un autre des autrices qui ont beaucoup inspiré mon bouquin, c'est des Allemandes qui sont très peu traduites en France, qui sont écoféministes, qui s'appellent Maria Mies et Veronica Benold-Thompson, dont on va traduire un livre qui s'appelle La perspective de subsistance. Et elle souligne à quel point, en fait, dans les campagnes jusque dans les années 50-60 en Allemagne, qui était le pays cœur du capitalisme à l'européenne, les pratiques de subsistance étaient hyper développées, en fait, dans les campagnes. Énormément de choses se faisaient sans rapport d'argent. Il y a tout un chapitre où elles décrivent ce qu'elles voyaient dans leur jeunesse comme forme de rapport, donc où les paysans, en fait, où il y avait plein de paysans qui faisaient leur blé et qui, en fait, qui donnaient 200 kilos de blé au meunier, qui leur rendait 100 kilos de farine, donc il gardait 100 kilos de blé pour vivre lui, et eux, ils donnaient 100 kilos de farine au boulanger, et ils récupéraient, ils avaient un abonnement d'un pain par semaine de 1 kilo, ils récupéraient 50 kilos de pain. C'était plein d'échanges non monétaires comme ça, de formes d'assistance, d'entraide locale, et donc en fait, il n'y a pas du tout à idéaliser à cette époque des années 60. En fait, c'était les 30 glorieuses, c'est le capitalisme fordiste, tayloriste, etc. Mais en fait, il y avait des ferments. Et en fait, moi, ce que je voudrais un petit peu des idées, c'est soyons attentifs dans notre culture politique aujourd'hui à tout ce qu'il y a encore en termes de forme d'autonomie, parce que c'est intéressant, parce qu'on peut renouer avec ça, et que le meilleur moyen de renouer, ça va être aussi de tisser des liens avec les gens qui les ont autour de nous. Et en fait, il y en a pas mal. Moi, un truc qui m'a fait marrer, c'est on arrivait de Paris, un télo militant, ultra organisé, machin, autonomie, etc. Voilà, et puis en fait, on s'est rendu compte que dans le village où on était, dans la région où on était, mais en fait, ce qu'on faisait, mais c'était le quart du tiers en termes d'autonomie matérielle que faisait à n'importe quelle personne, qu'il s'agisse de paysans ou pas de paysans. En fait, qu'on réinventait l'eau tiède, en fait. Et on était vraiment en retard sur des choses de base. Et qu'en fait, voilà, il y a tout un truc à renouer, mais pour plein de raisons. Parce que parce qu'on ne partage pas les idées politiques, les analyses politiques plus générales de ces gens-là, parce qu'il y a parfois aussi une part de mépris urbain, intello, par rapport aux pays ous, aux bouseux, etc., qui nous traversent encore, qu'on n'a pas suffisamment déconstruit, etc. On ne s'intéresse pas à tout ça. Et en fait, il y a des choses avec lesquelles on peut renouer. C'est juste une première base, c'est un truc, c'est renouer. Moi, j'utilise beaucoup le fait de renouer avec des pratiques qui ont été celles de nos grands-parents, etc. Il ne s'agit pas de reproduire ce qu'elle a, les formes de vie dans lesquelles elles ont vécu, mais il y a des choses intéressantes avec lesquelles on peut renouer et dont on peut s'inspirer. Et faisons-le, en fait. Revalorisons ça, parce que c'est intéressant. Ouais. Ouais, je dirais que ce qui pose le plus problème, c'est ce que j'ai envie d'appeler les effets de captivité, en fait. C'est qu'en fait, ces formes d'autonomie, en effet, enfin, pour qu'elles prennent un sens, qu'elles ne soient pas juste un espèce de fardeau individuel ou collectif à un petit groupe, ça implique une transformation du monde, en réalité. C'est, en fait, d'ailleurs, nos besoins, ils sont complètement intrinsèquement liés à la manière dont le monde est aménagé et est organisé. Moi, j'adore, quand j'aborde la question des besoins, là, un truc qui me semble important, moi, j'essaye de me... Je trouve pas la problématisation en termes de vrais et faux besoins, je la trouve pas pertinente, en fait, parce que dans le monde tel qu'il existe, on peut juger que la bagnole, la voiture, c'est un besoin factice, inventé, artificiel, un faux besoin. Dans le monde tel qu'il existe, je vous assure, il est vraiment ressenti. C'est hyper dur à la campagne de s'en passer, en fait. Donc, les besoins historiques, ils sont conditionnés par le monde dans lequel on vit. Et donc, ça fait des effets de captivité dans un mode de vie où, voilà, on voit pas comment se passer de la bagnole pour plein de raisons, mais que j'imagine que vous voyez, en fait, la distance d'un certain nombre de services, le fait que sinon, en fait, on remplace tel outil par un autre outil qui pose d'autres problèmes, de tout faire par Internet, et voilà, s'il s'agit d'être autonome sans voiture pour se faire livrer des colis par Amazon, c'est pas non plus une solution, en fait, et en fait, c'est juste une manière de repousser le problème, et voilà, et on peut pas, en effet, susciter la création d'un bistrot dans notre village. Il paraît qu'en 1900, il y avait 300 habitants, il y avait 3 bistrots. Vous imaginez qu'il n'y en a plus maintenant. Il n'y a plus 300 habitants, il n'y a plus 80. Et il n'y a plus de bistrot. Donc, et les bistrots, c'est un lieu politique, d'échange d'idées, qui est hyper important, en fait. En tous les cas, pour moi qui ai vécu en ville aussi, c'est des lieux importants. Donc, on ne peut pas juste décréter... on ne peut pas décréter tout ça. On peut travailler, en fait. Maintenant, de fait, on a un bar associatif, on commence à trouver d'autres choses. Mais voilà, et donc il y a des effets de captivité par le monde, et le monde, on ne l'abolit pas ni tout seul, ni à un petit groupe. Et voilà, et donc il faut quand même continuer dans ce monde-là, batailler aussi dans ce monde-là, parce que moi j'ai bien dit, si être capable de fabriquer ses chaussures dans un monde qui produit des centrales nucléaires, en fait, c'est très insatisfaisant politiquement, quand même. Et voilà, et donc pour ça, il faut batailler, il faut s'engager dans les villes, je dirais que c'est plus ça, et c'est ça qui ont fait qu'à plein de moments dans mon parcours, il y a eu des moments où on avait des formes d'autonomie hyper poussé, et puis il y a eu des moments où j'ai ressenti plus le besoin de gagner plus d'argent, donc d'accepter plus des boulots salariés d'avoir moins de temps pour les activités de subsistance, pour rééquilibrer. C'est un équilibre qui est pas facile à trouver. Moi, je suis pas du tout un exemple parfait en termes d'autonomie. Il y a des gens, encore une fois, qui vont bien plus loin que moi. Donc moi, je dirais ça, voilà, les effets de captivité, le fait qu'on est emprisonné dans ce mode de vie et que c'est difficile d'en sortir. Et parfois, en fait, ça peut être assez confortable d'y revenir. Moi, j'ai des copains aussi, des super copains, qui avaient trouvé des formes de travail collaboratif dans des scopes autogérés hyper bien, et qui ont préféré revenir à faire de l'intérim pour des boîtes pourries, parce que, en fait, il y avait moins de prise de tête. En fait, à 18h, c'est fini. Voilà, à 18h, tu as fait ta journée, c'est fini, tu peux penser à autre chose. Tu n'as pas à te dire, il y a ce problème-là parce que tu te sens responsable collectivement de l'outil qui permet à toutes et tous de vivre dans le collectif. Donc voilà, il y a ce monde, on ne l'abolit pas comme ça. Après, il y a un truc hyper satisfaisant. Enfin, quand même, dans les formes d'autonomie qu'on a développées, c'était hyper enrichissant. Moi, je suis hyper content des choix que j'ai faits. Je les ai pas regrettés. Les deux autres choses que je pourrais souligner, c'est d'abord la précarité existentielle. C'est-à-dire, dans ce monde-là, c'est des formes de vie d'une précarité qui peuvent être parfois flippantes. Et moi, je sais que voilà, j'ai une famille qui me dit « Mais Aurélien, le jour où tu vas te casser la gueule de ton toit, comment tu vas vivre? Tu vas mourir ?» Enfin, voilà, il y a des espèces de voilà, il y a... Et c'est des choses aussi qui peuvent m'affecter, moi, qui font que j'ai eu à plusieurs reprises, et là, maintenant, en fait, aussi, à nouveau, là, maintenant, et oui, voilà, si je pouvais trouver un emploi salarié, un truc qui me permette de ménager la chèvre et le chou, ce serait quand même pas mal pour des raisons purement circonstancielles. On déménage avec ma compagne qui est paysanne, elle va pas avoir de revenus pendant des années. Donc là, si je pouvais avoir un truc, un poste à la fac ou un truc comme ça, je le prendrais. Alors que j'avais plutôt décidé de faire autre chose. Donc il y a tout ça. Et puis après, il y a le plus gros obstacle que j'aborde dans la conclusion, c'est cette question de la conflictualité humaine. C'est-à-dire que le fait que on a été dépossédé de tout un art de coexister avec les autres, de s'organiser, d'assumer notre différence et la différence des autres, d'assumer la pluralité et l'altérité humaine. Ça, en fait, voilà, ce monde où on est délivré matériellement, il nous a délivré aussi de la nécessité de faire avec les autres, et on sait plus faire. On s'énerve tout de suite, on a des attentes de fusion. Enfin, les gens qui veulent, les jeunes en général, qui veulent vivre de manière collective, ils ont des attentes de fusion communautaire quasiment émotionnelle, et qui, en fait, au bout de deux ans, même pas un an, ça explose, en fait, nécessairement, parce que c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. C'est compliqué de réussir à faire subsister les collectifs de subsistance. C'est ça, la première tâche, en fait, et c'est pas facile. Et donc, voilà, toute cette question de l'individualisme, la culture de la conflictualité, l'acceptation de l'altérité de l'autre, l'altérité politique, l'altérité philosophique, émotionnelle, etc. Faire avec les autres, une formule qui revient beaucoup dans le livre, c'est pas facile. Et plus on a des idées de purisme idéologique, plus on a des plus c'est difficile en fait en pratique de s'organiser avec les autres, les vrais, les voisins. Et donc, voilà, il y a tout un travail aussi mental à faire sur soi. Et moi, je pense que ce monde capitaliste, etc., il a triomphé parce que c'est tellement plus facile d'être chacun chez soi, dans un appartement isolé, etc., où on n'a pas s'enquiller l'autre. Le fait qu'il ne fait pas la vaisselle exactement comme nous, qu'il ne range pas l'éponge de la même manière, tous ces petits trucs-là. Et tout ça, en réalité, c'est des petits détails, mais au quotidien, c'est des vrais problèmes. Et comment faire pour il y a un très beau recueil de contes zapatistes là qui avait été fait il y a quelques années. Il y a tout un truc sur les débats entre les dieux à l'origine du monde, une espèce de cosmogenèse du monde selon les zapatistes, et qui est complètement centré sur cette altérité de l'autre, comment accepter l'altérité de l'autre, et qui montre que les zapatistes aussi, ils sont confrontés à ça, à cette conflictualité humaine permanente, et que l'art de la conflictualité, redévelopper une culture de la conflictualité saine, c'est un autre enjeu, je dirais, assez central. Enfin, moi, en tous les cas, ça me semble hyper important. Ouais. Moi, je trouve que c'est légitime, donc j'oppose toujours, je fais vraiment la distinction entre soulager et délivrer. Se soulager de nos peines, c'est un objectif tout à fait légitime, et ça passe par des techniques qui allègent le fardeau de la vie quotidienne. C'est tout à fait légitime. Et par contre, la délivrance telle que nous le propose le monde capitaliste, industriel, technologique, là, ça conduit à des formes de dépendance. En fait, l'exemple que je prends, c'est souvent si on a les moyens de s'organiser techniquement à l'échelle d'une communauté, d'un village, pour avoir l'eau courante. C'est un soulagement sans devenir dépendant de Veolia ou de je ne sais quelle Lyonnaise des Eaux ou machin. C'est un soulagement technique qui est hyper précieux, et il n'y a aucune valorisation chez moi du fait, par exemple, d'aller chercher tous les matins le seau d'eau au fond du puits voilà, de le porter sur 10 km. Non, c'est assez, assez, j'essaye de casser un petit peu ça. Voilà. Et par exemple, là, dans le livre, je ne développe pas, mais il se trouve que j'ai vécu en Suisse à une époque. J'étais prof en Suisse. À un moment donné, il fallait que je gagne des sous, donc je suis allé à la source même. J'allais donner des cours de philo en Suisse. Et là, par exemple, dans plein de villages, toutes les activités collectives communautaires là-bas sont basées sur la gestion de l'eau, parce qu'il y a des régions où il y a peu d'eau en été. Et donc, en fait, les villages ont des réseaux, ce qu'ils appellent des bis. C'est des réseaux, c'est des troncs d'arbres et de la roche, c'est creusé dans la roche, un réseau qui amène de canalisation, qui amène l'eau du pied du glacier jusqu'au village, et parfois ça fait jusqu'à 40 km de long. C'est entretenu collectivement par les paysans, ça existe encore, et en fait, et du coup, il y a une obligation à tout le monde de participer à ça, à cette gestion d'un outil commun, c'est un commun, et après la gestion de l'eau la capacité à avoir de l'eau et à y attribuer à tout le monde au sein de du collectif. Et là, bah voilà, c'est des outils simples, c'est des troncs creusés. Ça a été dur, mais là, ils ont fait des efforts pour se soulager les efforts de tout le monde d'une manière qui les rend complètement autonomes. Et voilà, et donc ça, c'est génial. Bon, alors, sauf que maintenant, les glaciers, ils sont en train de disparaître, donc ils vont être dans ils vont être dans des difficultés. Mais bon, ça, c'était pas prévu au départ quand ils sont lancés là-dedans. Mais voilà, ça, c'est un bon exemple de techniques qui soulagent. Ce que je voudrais dire là sur la condition intellectuelle, c'est quelque chose que j'ai pas développé dans l'exposé et qui m'est apparu peu à peu, moi, parce que moi je suis un intellectuel, vous l'avez compris quand même, c'est que il n'y a pas que les classes dominantes, enfin toutes les classes dominantes dans l'histoire ont voulu être délivrées des nécessités matérielles de la vie, c'est clair. C'est une constante, en fait, quand on regarde. C'est à partir du moment où il y a eu des formes de domination sociale, les dominants, ils se sont délestés d'une partie des activités de subsistance sur les groupes qui dominaient. Mais il y a un groupe social qui est particulièrement intéressé par la délivrance matérielle, parce qu'il a envie de passer son temps à lire, à écrire, et à créer, et à penser, et à réfléchir. Ce sont les intellectuels, en effet. Et je pense qu'en fait, une des raisons du triomphe de l'idée de délivrance à l'âge moderne, c'est l'importance qu'a eu la culture écrite dans la civilisation occidentale et le fait qu'en fait, tous les philosophes, tous les penseurs de gauche comme de droite, marxistes comme fichaient à la liberté, eh ben, ils projetaient en fait dans leur conception de la liberté cette idée de délivrance parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient qu'une seule envie, c'était de pouvoir passer leur temps à lire, écrire et réfléchir. Et voilà, donc ça explique en partie la l'hégémonie dans l'imaginaire moderne de cette idée de délivrance. Et moi, ça, j'en ai fait les frais, je l'ai vécu un petit peu dans ma chair, parce que pour écrire ce livre, j'ai mis 10 ans, parce que je suis lent, parce que j'ai essayé de faire un truc très fouillé, parce que j'étais bon élève, etc. Donc je me dis, je ne peux pas écrire là-dessus sans avoir tout lu, etc., etc. Très consciencieux, méticuleux. Mais c'est aussi parce que, ben, de fait, quand on prend en charge, quand on essaye de participer à égalité avec ses amis à une subsistance commune, bah ça prend énormément de temps, c'est extrêmement chronophage, et donc on a pas le temps d'écrire. Et donc j'ai dû à des moments demander, donc moi par exemple j'étais dans un collectif de production de subsistance, on se retrouvait une fois par semaine pour faire le pain et toutes les cultures non irriguées, patates, oignons, ail, poireaux, les fèves, le blé, on a fait aussi même une année. Et voilà, on produit ça collectivement. Donc on faisait une tonne de patates, une tonne 5 certaines années de patates par an et qu'on se redistribuait, etc. Après, on faisait ça une fois par semaine. Et voilà, et pour écrire ce livre, à un moment donné, bah, j'ai dû demander pendant un été d'être exonéré de ce travail-là parce que je n'arrivais pas à avancer. Et que par contre, il était hors de question pour moi de m'exonérer des tâches domestiques. Des gens avec qui je vivais au quotidien, il n'était pas pour moi question de pouvoir dire on va me faire à manger et on va faire le ménage pendant 3 mois pour moi. Ça, c'était juste, c'était insupportable. Ça, pour moi, la liberté et les femmes de ménage, c'est pas compatible. Et voilà, donc j'ai fait le choix de demander à être délivré de ça, sachant que c'était des activités plus... en partie plus sympa, bah c'est plus collectif, etc. C'est une manière de sortir, etc. Et donc voilà. Et donc les copains et les copines ont accepté. Du coup, on avait eu des discussions en fait là-dessus, sur se dire en effet que ça avait un sens. En fait, c'était important. Si à un moment donné, à quelqu'un qui doit faire une enquête ou un travail, un créateur, etc. Bah oui, que c'est légitime en fait Et que ça fait partie de la vie, parce que la subsistance, c'est pas juste bouffer des patates, bah, c'est réfléchir en commun. Un bon musicien, un bon conteur, il participe autant en fait à une vie riche qui est pas juste de satisfaire des besoins matériels, mais et voilà. Donc moi, je pense qu'il y a des manières de, enfin, j'espère qu'on va trouver des manières de rendre ces choses-là compatibles un petit peu. Moi, dans mon, quand j'imagine un monde un petit peu plus autonome et plus juste que celui dans lequel on vit, moi j'ai l'impression que voilà, en consacrant deux trois jours par semaine à des activités un petit peu micro locales de subsistance, on est capable, et de les faire collectivement et intelligemment, on est déjà capable de faire un paquet de choses. Mais vraiment un paquet de choses en termes de nourriture, de médicaments, de soins. Enfin voilà, c'est pas non plus fou en fait. Et la charge de travail est pas non plus folle, surtout quand elle est partagée collectivement. En fait, ça peut être des moments assez joyeux, quoi. Mais et voilà. Et ça veut dire que il reste la moitié de la semaine, trois jours, deux jours, voilà, pour s'adonner à des passions. Et à nos passions respectives, que ce soit la musique, la philosophie, ou à développer un art particulier. Par exemple, moi, par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, là, en effet, l'autonomie, ça implique de remettre en cause certaines formes de division du travail, mais certaines formes seulement. En fait, derrière ce mot « division du travail », là, c'est un effet aussi de captif, nous emprisonner dans un certain imaginaire. En fait, tous les gens qui utilisent ce mot-là, tous les théoriciens, notamment Durkheim, ils confondent en permanence trois choses qui n'ont rien à voir, parce qu'elles se jouent à des échelles différentes, et qu'elles se jouent à des échelles tellement différentes qu'en fait, d'utiliser le même mot pour désigner des phénomènes aussi différents, c'est un petit peu comme utiliser le même mot pour une basse-cour et un poulailler industriel. En fait, c'est en effet, dans les deux cas, on élève, soi-disant, on nourrit des volailles, et éventuellement on les bouffe après. Mais en fait, ça se fait dans des contextes tellement différents, ça se fait à des échelles tellement différentes que ça n'a pas du tout les mêmes effets, les mêmes logiques, et que c'est pas la même chose. De même, une éolienne industrielle, c'est pas un grand moulin à vent. Un élevage de poulets industriels loués, c'est pas une grande basse-cour, c'est juste des trucs différents, en fait. Et en termes de division du travail, en fait, on confond trois choses. La répartition des tâches au sein d'une communauté, l'organisation des métiers au sein d'une cité, par exemple, le modèle médiéval des métiers, et à l'hyperspécialisation professionnelle dans laquelle on est enfermé dans le monde industriel, et dont la version caricaturale, c'est la chaîne de montage où on fait toute notre vie le même geste comme Charlie Chaplin dans Les Temps modernes. Pour tous ces trois phénomènes-là, on parle toujours de division du travail. En fait, ça n'a rien à voir, les trois choses. Et moi, je pense que l'autonomie, en effet, c'est incompatible avec Charlie Chaplin ou l'hyperspécialisation dans laquelle on vit, mais c'est tout à fait compatible avec l'organisation des métiers ou la répartition des tâches à l'intérieur d'une communauté. Et de fait, c'était ce qui se faisait. Les artisans au Moyen-Âge, même au Moyen-Âge, en fait, jusqu'à dans les années 30, et même au-delà, même sans doute les années 50-60, Je discutais une fois, là, j'avais rencontré un type qui avait fait sa maison avec un qui avait eu recours, un paysan qui avait eu recours à un charpentier pour faire une immense grange dans les années 60. Donc lui, il avait pris 2 ou 3 ans, ça, il avait agrandi en fait la ferme familiale, fait une grange en plus, et il l'avait fait sur la base. Et donc il me disait, les artisans bien sûr vivaient chez lui à l'année, et juste aussi bien le maçon que le charpentier, il était là toute la journée, et puis il se barrait à deux moments. Il se barrait au mois de mai pour faire les foins, et au mois de juillet pour faire les moissons. Et c'était comme ça, enfin, c'était voilà, on arrêtait tout, et voilà, ils rentraient dans la ferme de leurs parents, mais lui-même non plus, il n'avait pas le temps en fait de faire sa maison à ce moment-là, de faire sa grange. Ce qui était important, c'était de faire rentrer les fourrages pour les bêtes en hiver, et de faire rentrer les récoltes. Parce que les activités paysannes, en fait, il y a besoin d'une masse de travail énorme à des moments hyper précis. Mais le reste de l'année, en fait, il y a notamment l'hiver, les paysans, en fait, ils décortiquent les châtaignes, ils font de la musique, et sinon ils font du tissage, de l'artisanat, etc. Mais il n'y a pas des travaux au champ très 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 durs. Par contre, donc dans un monde plus juste et plus autonome, et ben je pense qu'on pourrait avoir des activités de subsistance quelques journées par semaine, une activité spécialisée, un artisanat spécial. activités intellectuelles ou artistiques, quelques autres journées par semaine, et aussi pour avoir une agriculture qui ne repose pas sur des machines, et que tout le monde se dise, mais c'est normal en fait de tout abandonner à certaines périodes pour aller aider les 10, 15 ou 20% de la population qui font pousser des légumes et qui ont besoin de rentrer les récoltes dans un temps record. En fait, il y a un enjeu comme ça. Les récoltes, le blé, si on le récolte pas dans les quelques journées où il y a pas d'orage, en fait on perd la récolte. Donc si on veut se passer de machines ou de d'énormes formes de mécanisation à la campagne, il faut être capable de résoudre ce problème que le travail paysan, c'est une masse de travail sur un temps hyper court à des moments très précis. Et ça implique une implication de tout le monde. Mais je pense que c'est compatible avec des formes de vie intellectuelle, artistique, et que ça peut être en fait très très bien que les artistes, les maçons, les philosophes, ils se disent c'est normal d'aller passer 2 semaines au mois de mai pour aider des gens à faire des foins, et puis 2 semaines au mois de juillet pour rentrer les récoltes de blé. Voilà, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas si je réponds à toutes les interrogations, mais voilà. Merci, on peut peut-être continuer. Enfin, s'il y en a qui veulent continuer, on va peut-être libérer la librairie. S'il y en a qui veulent continuer dehors ou dans un café, c'est possible. Et voilà, je vous remercie de votre attention.
Radio Livre.